VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Dion.
Bonjour à tous, il est 11h en temps universel. L'ex-président tchadien Hissène Habré, condamné en 2016 à la prison à vie pour crime contre l'humanité, sera définitivement fixé sur son sort ce jeudi avec l'annonce du verdict de son procès en appel tenu en janvier devant un tribunal spécial africain. Convoqué donc jeudi pour 10h, heure locale et GMT, cette audience sera marquée par la lecture de ce verdict qui sera définitif et irrévocable, a déclaré à l'AFP le porte-parole du tribunal spécial Marcel Mendy. En cas de condamnation, Hissène Habré, aujourd'hui âgé de 74 ans, purgera sa peine au Sénégal ou dans un autre pays de l'Union africaine. Au Burkina Faso, un gouvernement entier devant des juges, l'ex-premier ministre burkinabé Luc Adolphe Thiaw et 34 de ses ministres, dont l'ex-président Blaise Compaoré, en tant que ministre de la Défense, sont cités à comparer devant la Haute Cour de justice jeudi pour un procès spectaculaire sur la répression de l'insurrection de 2014 ayant conduit à la chute du régime. Monsieur Compaoré vit depuis en exil à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Son avocat français, Pierre-Olivier Sue, sera à Ouagadougou pour le défendre. Alors que la force de Boko Haram semble amoindrie ces derniers mois, il y a certaines parties du territoire nigérien qui ont été épargnées par l'insurrection djihadiste. C'est le cas de Ngigmi, où s'est rendu l'envoyé spécial de VOA Afrique au Niger, Nicolas Pino.
Tango, donc il faut immobiliser le véhicule là et vous procédez comme d'habitude à la fouille, donc minutieusement. Vous rendez compte à l'issue.
Le soleil est levé depuis peu sur Ngigmi, mais cette patrouille de l'armée nigérienne est déjà à pied d'œuvre aux aurores. À sa tête, le lieutenant Ismaël et ses hommes arrêtent un véhicule pour vérifier l'identité des passagers et engager la conversation. Ce genre de contact avec la population est essentiel pour recueillir des renseignements, assure le jeune gradé nigérien.
Avant d'aborder les localités, le plus souvent, les premières personnes sur lesquelles on tombe, on essaie d'établir le contact avec elles, de les rassurer, de demander certains détails, certains renseignements.
Ici, pas de risque de tomber nez à nez avec Boko Haram, puisque le groupe djihadiste a plutôt épargné les alentours de Ngigmi depuis le début de l'insurrection. Les populations collaborent avec l'armée, elles ont mis en place des comités de vigilance, comme l'explique le chef de canton de Ngigmi, Maina Inusamanga.
Vraiment, notre département, pour le moment, c'est calme. Les BH n'ont jamais pu pénétrer dans notre ville pour nous faire du mal. Vraiment, dans la région, vraiment, le département le plus calme, c'est le département de Ngigmi. Bon, grâce à nos prières et puis avec la collaboration avec les forces de défense et de sécurité, les différents chefs de village qui sont en brousse, les éleveurs, tout le monde en train de communiquer avec les forces de défense et de sécurité pour donner les renseignements.
Même son de cloche de Boulama Ali Abdou, VOA Afrique a rencontré ce chef de village aux alentours de Ngigmi.
L'armée nous sert de bouclier contre les ennemis grâce aux militaires. On vit en harmonie avec nos familles ici. Depuis qu'on est ici, on n'a eu aucun problème. Les patrouilles de l'armée nous rassurent.
Ici, les déplacés nigériens ont en grande partie dû évacuer les îles du lac Tchad. Beaucoup ne demandent qu'à retourner chez eux pour pêcher ou faire de l'élevage comme avant. Boula Mamadou, du site de déplacés de Kimigana.
L'assistance alimentaire qu'on nous donne, c'est pour un mois. Il y a même des gens qui n'ont rien. Avec les familles que nous avons parfois, c'est difficile de joindre les deux bouts.
Loin des tensions et des attaques qui ont eu lieu le long de la frontière avec le Nigeria, entre Difa et Bosso, Ngigmi espère garder longtemps sa quiétude. À 40 km de là, les opérations de la force mixte se poursuivent dans les îles du lac Tchad pour nettoyer les derniers sanctuaires de Boko Haram. Depuis Ngigmi au Niger, Nicolas Pino, VOA Afrique.
Les États-Unis débutent demain mercredi le retrait de leurs forces sécuritaires déployées depuis 2011 à l'est de la Centrafrique dans la lutte contre la rébellion de l'armée de résistance du Seigneur, la LRA, de Joseph Kony. Le temps est venu de passer à autre chose, étant donné que l'organisation, la LRA, est vraiment en train de se débattre pour sa survie, a expliqué le 20 avril lors d'une conférence de presse téléphonique le général Thomas Waldhauser à la tête du commandement américain pour l'Afrique. Les Nations Unies ont critiqué lundi la décision des autorités de RDC de présenter une vidéo montrant ce qu'elles affirment être les assassinats de deux experts de l'ONU tués en mars dans le pays, affirmant que la décision pourrait gêner l'enquête. Les autorités de la République démocratique du Congo avaient montré à la presse quelques heures plus tôt cette vidéo d'environ 2 minutes dans le but apparent d'écarter les soupçons qui pèsent sur Kinshasa dans cette affaire. Et puis en Guinée-Bissau, la population est de plus en plus impatiente face à la persistance de la crise politique qui a commencé en août 2016 à la suite de la démission du gouvernement dirigé par le Premier ministre Domingo Simoes Pereira, qui appartient au même parti que son rival, le président José Mário Vaz, le PAIGC, vainqueur des dernières élections législatives de 2014. Écoutez les réactions de quelques citoyens bissau-guinéens.
C'est pitoyable parce que les gens n'avaient jamais pensé que cette crise va durer comme les mois qu'il a consommé. Nous, les bissau-guinéens, les citoyens, notre grande préoccupation aujourd'hui, c'est de voir les acteurs politiques, des ententes, pour trouver un chemin afin que le pays sort dans cette situation parce qu'on a marre, on est très fatigué, rien ne marche, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de moyens, il n'y a pas de conditions sociales pour que les gens continuent à vivre normalement.
Depuis que cette crise a commencé, c'est tout le monde qui s'en. On est fatigué, même très fatigué. Les politiciens ne voulons pas s'asseoir autour d'une même table pour discuter et surmonter rapidement cette crise. Avec la crise, il y a des familles qui mangent qu'une seule fois par jour. C'est triste.
Nous sommes très fatigués avec cette crise politique qui continue de persister en Guinée-Bissau. La crise va bientôt faire 2 ans car tout est dans l'impasse. C'est nous qui en sommes des victimes. Ces dirigeants politiques n'ont pas pitié de nous. Ils nous maltraitent. Actuellement, le président Joma ne s'entend pas avec le président de l'Assemblée nationale populaire, Priano Kassama. Nous avons la grève un peu partout au niveau de l'éducation, de la justice et même la santé.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
En France, hommage aujourd'hui aux policiers tués jeudi lors de l'attentat sur les Champs-Élysées en présence notamment de 2 candidats qualifiés pour le second tour de l'élection présidentielle, Emmanuel Macron et Marine Le Pen. François Hollande, le chef de l'État français, a rendu un hommage vibrant au capitaine Javier Juzelet dans la cour de la préfecture de police à Paris.
Aujourd'hui, la nation tout entière exprime sa profonde gratitude et sa reconnaissance au capitaine Xavier Jugelet. Il avait l'esprit droit et l'âme honnête. C'était un homme de cœur et d'honneur. Il était devenu policier par conviction et comme citoyen, il voulait être libre de les exprimer et de les vivre pleinement. Qu'il sache que son sacrifice est à conforter la démocratie. Qu'il sache qu'après lui, d'autres se lèveront pour poursuivre ce qui a été engagé pour la liberté et la dignité humaine. Qu'il sache que nous sommes ici, et sa famille, son conjoint, ses collègues, fiers de lui, qu'il repose en paix. Nous ne l'oublierons jamais.
Le chef de l'État français. La Corée du Nord, toujours en tête de l'agenda international du président Donald Trump, le chef de l'exécutif américain, a convié mercredi, demain donc, à la Maison-Blanche, l'ensemble des 100 sénateurs américains pour les informer à ce sujet. Les précisions, Michel Joseph.
La séance de briefing de la Maison-Blanche sera conduite par le secrétaire à la Défense, Jim Mattis, son collègue du département d'État, Rex Tillerson, le directeur national du renseignement, Dan Coats, et le chef d'état-major interarmé, le général Joe Dunford. Lors d'un déjeuner lundi avec les ambassadeurs des pays membres du Conseil de sécurité de l'ONU, le président Donald Trump a qualifié d'inacceptable le statu quo en Corée du Nord. Le Conseil doit se préparer à prendre des sanctions plus vigoureuses contre les programmes nucléaires et de missiles balistiques de Pyongyang. Le chef de l'exécutif américain a tenu ses propos après des entretiens téléphoniques avec les leaders du Japon, de la Chine et de l'Allemagne. Le président Trump et les autres responsables américains n'ont cessé de répéter que toutes les options sont sur la table pour, disent-ils, résoudre le problème des provocations nord-coréennes.
La Corée du Nord, donc, a célébré aujourd'hui le 85e anniversaire de la création de son armée par un exercice de tir conventionnel, selon la presse sud-coréenne, alors que des rumeurs annonçaient un possible essai nucléaire ou un tir de missile. Parallèlement, Séoul a annoncé des exercices avec un porte-avions américain attendu dans la région. Les rumeurs étaient allées bon train sur le fait que Pyongyang pourrait mener un 6e essai nucléaire ou un tir de missile à l'occasion donc de cet anniversaire. À la mi-journée, cependant, aucun événement de ce type n'avait été décelé. Aucun développement inhabituel n'a été détecté, a déclaré le ministère sud-coréen de la Défense. Jean-Roger Billon à ce micro. Le prochain journal dans 50 minutes, ce sera en compagnie de Henri Francisque. Pour ma part, je vous dis bon après-midi sur le continent.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.